Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.
Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Spoutnik Afrique depuis Bamako sur les ondes de Maliba FM. Je suis Anthony Lefebvre et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour mon émission Zone de Contact. Au programme aujourd'hui, la croissance en hausse en Tunisie, Paris justifie son refus de rompre un contrat sur l'uranium avec la Russie et un diplomate russe révèle ce qui se passera lors du prochain sommet Russie-Afrique. La République centrafricaine est très active sur le plan diplomatique. La ministre des Affaires étrangères de RCA nous donnera les priorités de son pays dans un entretien exclusif. Le Zimbabwe a lancé sa monnaie numérique. Un économiste camerounais reviendra à notre micro sur cette démarche alors que le pays souffre d'hyperinflation. L'activité économique en Tunisie continue de croître. Au premier trimestre 2023, elle a enregistré une hausse de 2,1% contre 1,8% au trimestre précédent selon l'Institut tunisien de la statistique. Toutefois, derrière ce chiffre se cachent des disparités en fonction des secteurs d'activité. Ce sont les services qui ont tiré vers le haut l'économie tunisienne avec une augmentation de la valeur ajoutée de 3,2%. L'hôtellerie et la restauration ont fait office de locomotive avec un accroissement de 16,3%. Suivent ensuite le secteur des transports avec 5,3% et le secteur de la communication avec 4,8%. Outre les services, l'industrie a affiché une croissance de 2,2% en glissement annuel durant le premier trimestre de cette année. En revanche, la valeur ajoutée du secteur de l'énergie, des mines, de l'eau, de l'assainissement et du traitement des déchets a connu un repli de 10,1% en raison de la diminution de la production du secteur d'extraction du pétrole et de gaz naturel de 15,7%. La croissance est également négative dans le secteur du bâtiment et de la construction, avec une légère baisse de 1,6% durant le premier trimestre de cette année. Point encourageant, la demande intérieure a augmenté avec un taux annuel de 1,8% malgré des tensions inflationnistes. La France ne veut pas se passer d'uranium russe malgré les sanctions qu'elle a adoptées contre Moscou. Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, a déclaré que le contrat franco-russe sur le retraitement de combustibles nucléaires usagés en Sibérie reste en vigueur car Paris ne veut pas servir la soupe à Moscou en lui payant une indemnisation. Pour la ministre française, renoncer à ce contrat rapporterait plus de devises à la Russie, ce qui la favoriserait dans un contexte de sanctions anti-russes. Elle a ajouté que Paris ne dépendait pas de Moscou dans le domaine du nucléaire civil et qu'elle pourrait se passer de ses services. Pour rappel, la Russie et la France collaborent en matière de revalorisation des déchets nucléaires depuis la période soviétique. Entre 1972 et 2010, Paris a expédié en Sibérie une partie de son uranium de retraitement issu du combustible usagé de ses centrales afin de lui offrir une seconde vie. C'est l'usine de Seversk dans la région russe de Tomsk qui serait aujourd'hui la seule à pouvoir traiter le combustible usagé des 56 centrales nucléaires françaises, selon un média hexagonal. La coopération entre Moscou et le continent africain sera étendue après le sommet Russie-Afrique. Kirill Logvinov, représentant permanent russe par intérim auprès de l'UE, a estimé que cet événement servira à donner une nouvelle impulsion au développement des relations de la Russie avec ses partenaires africains. Selon le diplomate, l'UE, qui avait opté pour l'isolement de Moscou dans l'arène internationale, n'a pas pris en compte les conséquences d'une telle politique. Pour M. Logvinov, le deuxième sommet Russie-Afrique qui aura lieu à Saint-Pétersbourg du 26 au 29 juillet revêtira une grande importance sur deux aspects. Tout d'abord pour les relations russo-africaines, mais aussi pour l'ensemble de la situation internationale. Il a ajouté que ce format a un potentiel immense pour régler des questions concrètes liées au bien-être des gens. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM. Je vous salue si vous venez de régler votre poste de radio sur 99.5 FM. Dans moins de 3 mois, le forum Russie-Afrique se tiendra à Saint-Pétersbourg. Les pays africains se préparent à cet événement qui approche à grands pas. C'est le cas de la République centrafricaine dont la coopération déjà très étroite avec la Russie pourrait s'élargir encore davantage. Outre Moscou, Bangui a accueilli à bras ouverts récemment une délégation des BRICS qui va s'impliquer dans des projets à l'intérieur du territoire de la RCA. Il s'agit notamment de la construction de mini-centrales nucléaires, de la modernisation de l'aéroport, de la construction d'un chemin de fer et même de l'édification d'une nouvelle ville. Parallèlement, l'ouverture d'une filiale de la banque des BRICS dans la capitale centrafricaine est envisagée. Selon l'économiste et enseignant-chercheur centrafricain Loïc Molambo-Sambi, qui a récemment participé à l'émission Zone de Contact, l'implantation de l'antenne de la nouvelle banque de développement constituera pour la RCA un moyen de contourner les sanctions occidentales dénouées de fondements qui l'empêchent de financer ses projets de développement. Pour en savoir plus sur la stratégie de Bangui, nous avons contacté Sylvie Baipo-Témon, ministre des Affaires étrangères de RCA, qui a accordé à Spoutnik Afrique un entretien exclusif. Écoutons-la.
Notre entretien intervient à quelques mois du deuxième sommet Russie-Afrique. La Centrafrique a exprimé sa volonté d'y participer. Qu'attendez-vous de cet événement? Est-ce qu'il y a eu des discussions autour des accords qui pourraient être signés à ce forum?
Qu'attendons-nous de cette rencontre? C'est tout simplement de pouvoir poursuivre la consolidation, le renforcement de la coopération bilatérale entre la République centrafricaine et la Fédération de la Russie. Vous savez que nous avons déjà une cordiale relation, en fait, à aujourd'hui sur un appui sur le sujet, sur le domaine sécuritaire. Mais nous avons exprimé déjà depuis le premier forum une volonté de pouvoir diversifier cette coopération. Cette diversification est déjà large parce que nous avons un certain nombre de travaux sur différents sujets, des sujets judiciaires, des sujets concernant les aspects énergétiques, miniers et santé et autres. Donc nous allons continuer justement à échanger, à discuter ce qui relève des intérêts communs.
Merci beaucoup. Lors de sa récente visite à Moscou, le président du Conseil économique et social de la République centrafricaine, Alfred Tainga Poloko, a affirmé que Bangui comptait sur l'aide militaire russe. Que pouvez-vous nous dire de l'aide qui a été déjà accordée? Est-elle efficace, suffisante? Votre pays a-t-il besoin de plus?
Écoutez, vous savez que la République centrafricaine est dans une situation d'instabilité sécuritaire depuis un certain temps. La République centrafricaine, dans le cadre des dernières échéances électorales, a décidé de déclencher ces accords bilatéraux. Et nous avons l'appel de soutien au niveau international que la République centrafricaine a effectué. Nous avons eu deux pays qui ont répondu favorablement, notamment la Fédération de la Russie et la République du Rwanda. À aujourd'hui, les résultats sont là. Nous avons pu tenir ces échéances électorales dans les difficultés que nous avons vécues et nous sommes encore dans cette phase de restructuration, de reconstruction d'une armée professionnelle, républicaine et tout ce que l'on veut asseoir comme armée pour répondre à la mission qui est la sienne, qui est la protection de la population et la protection de l'intégrité territoriale. Et pour cela, nous avons besoin de renforcer notre coopération davantage avec nos partenaires, et notamment la Fédération de la Russie, dans les actions, dans le cadre de l'appel au soutien, et notamment aussi pour reconnaître dans cette relation entre la Fédération de la Russie et la République centrafricaine. Nous avons aussi beaucoup apprécié, en premier lieu, cet apport qui a permis, dans le cadre de l'embargo, une livraison d'armes pour pouvoir mener des formations qui soient efficaces. Et l'intervention de la Fédération de la Russie et pour la République centrafricaine, une intervention réussie, une intervention qui nécessite de pouvoir prendre d'autres formes dans la mesure où la République centrafricaine continue à subir les menaces et les exactions vis-à-vis de la population, des rebelles et des groupes armés. Donc l'objectif, quand je vous parlais du besoin, est-ce que oui, nous avons encore besoin, parce que tant que nous n'avons pas atteint l'objectif premier, c'est l'objectif de la demande de la République centrafricaine, de ces partenariats sécuritaires, que ce soit au niveau multilatéral ou au niveau bilatéral, c'est de réduire les capacités de ces groupes armés qui continuent à sévir et à laisser la République centrafricaine en marge des nations dans le concert au niveau de la scène internationale. Donc il nous faut justement travailler encore à répondre à cette aspiration du peuple, c'est de pouvoir voir asseoir la paix et la stabilité en République centrafricaine.
Merci beaucoup, Madame la Ministre. La question suivante est que la République centrafricaine a été très active dans le domaine de la politique étrangère ces derniers temps. Bangui reçoit régulièrement beaucoup de délégations étrangères. Le président Touadéra a été élu à la tête de la CEMAC. Après et malgré, on peut dire, une période difficile, votre pays est très dynamique sur le plan diplomatique. À quoi cela est-il lié et quelles sont vos priorités en tant que ministre des Affaires étrangères?
Effectivement, alors à quoi cela est dû? C'est tout simplement à l'orientation et à la politique étrangère du président de la République que j'ai en charge de mettre en œuvre et qui est très claire depuis le départ. c'est une volonté de la République centrafricaine à diversifier ses partenaires. Parce que, il faut savoir que nous sommes plus dans une époque d'alignement. Et pour la République centrafricaine, il ne fait aucun doute que le retard qu'elle a pris en termes de développement, les besoins qu'elle a, dont elle a, qu'elle nécessite pour obtenir une vraie stabilisation et qui lui permettra justement de gagner en gap en développement économique et social et de pouvoir justement bénéficier des compétences, des expériences et des expertises là où il faut. Donc on peut, sur le domaine sécuritaire, allier, justement on a besoin d'allier, d'ailleurs d'allier plusieurs partenaires. Sur le domaine économique, il faut tenir compte aussi que la situation économique mondiale n'est pas stable. Beaucoup de pays font face depuis notamment les effets du changement climatique, la pandémie du Covid-19, font énormément de défis à relever. Donc un pays aujourd'hui ne peut pas prétendre pouvoir apporter des aides, et ça serait de toute façon illusoire pour la République centrafricaine de dire qu'elle reste dans une exclusivité ou autre. On a un besoin de diversifier notre partenariat parce qu'aujourd'hui le monde a évolué. Des pays qui appartenaient d'ailleurs à ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde, aujourd'hui les pays en voie de développement, ont émergé, et la République africaine doit pouvoir se servir de ses expériences. Donc ses efforts diplomatiques relatifs au fait qu'elle a ce souhait, qu'elle a à cœur de pouvoir diversifier ses partenariats pour pouvoir bénéficier de l'expérience d'autres pays, tenir compte de ses spécificités, mais surtout ne plus être en marge de la communauté internationale, de ce qui se passe dans le monde. Et je pense à un élément qui est évidemment très porteur pour cette diplomatie, c'est aussi de pouvoir parler de sa situation par sa propre voix. Vous savez, il y a un temps où on parlait beaucoup au nom de la République centrafricaine. Mais il faut savoir que même quand vous allez chez le médecin, vous emmenez votre enfant chez le médecin, c'est l'enfant qui doit dire où il a mal. Donc, c'est à la République centrafricaine de pouvoir dire quels sont ses besoins, quelles sont ses souffrances, quelles sont ses aspirations, quelles sont ses perspectives. Et c'est à elle est mieux placée pour expliquer sa situation et les réalités du terrain. Et c'est ce qui se passe depuis la session à la Conférence suprême du président de la République. Donc cette volonté aussi de faire respecter les choix de la population centrafricaine, parce que c'est aussi un choix qui est tiré des leçons apprises de son histoire. Il faut savoir que quand on parle de cette instabilité sécuritaire, il est aussi, il faut qu'on soit conscient de, et en tout cas honnête, de reconnaître que ces groupes d'armées sont toujours les mêmes. Donc, à un moment, il faut s'asseoir et comprendre l'histoire de la République centrafricaine. Ils se sont appelés libérateurs, ils se sont appelés Séléka, ils s'appellent CPC, je ne sais pas comment ils s'appelleront encore demain. Mais la population est lassée de tout cela, et la population ne veut plus souffrir en silence, et la population attend justement de ses autorités de défendre en premier lieu les intérêts de la République centrafricaine. Et c'est ça qui prime. Donc c'est dans tout cela que la diplomatie centrafricaine est active, et que les résultats, en tout cas quand vous dites que justement en termes de politique étrangère ou de diplomatie centrafricaine est très active, ben justement il y a un retard à rattraper, il y a une situation à clarifier. Parce que beaucoup de choses se disent sur la République centrafricaine par des gens qui ne sont pas habilités à parler au nom de la République centrafricaine, et qui ne sont pas, qui sont dans une dimension qui ne protège que leurs intérêts et qui ne mettent pas en avant les intérêts ou en tout cas les attentes et les aspirations de la République centrafricaine.
Merci beaucoup. En parlant de la diversification des partenaires, on observe nettement une intensification des relations entre Bangui et les BRICS. Bangui a été choisi pour accueillir le prochain siège du groupe en Afrique centrale. L'ouverture d'une filiale de la banque des BRICS est également envisagée. Comment voyez-vous les relations entre la RCA et les BRICS, et quels avantages, selon vous, les BRICS peuvent-ils apporter à votre pays?
Dans la suite de ce que j'ai dit tout à l'heure, dans le cadre de la diversification, la République centrafricaine a tout intérêt justement à s'ouvrir. Et dans les BRICS, quand on parle des BRICS, c'est un ensemble d'États regroupés dans une vision commune, mais c'est aussi un certain nombre d'États sur lesquels la République centrafricaine pourrait bénéficier d'expériences et de compétences. Vous avez la Fédération de la Russie, vous avez le Brésil, vous avez l'Inde, l'Afrique du Sud, la Chine. Donc, autant de pays sur lesquels nous avons besoin aussi, et qui font partie des pays aujourd'hui qui émergent, et qui pourrait aider la République africaine à lever complètement la tête de l'eau. Qu'est-ce que nous attendons? C'est de pouvoir renforcer une coopération qui va permettre à la République africaine de faire un gap en termes de développement, parce que quand on cite ces États, des États qui économiquement sont reconnus comme étant aussi des États avec une économie bien soutenue. Donc, c'est en cela, dans notre diversification, il faut qu'elle soit aussi stratégique. Une diversification qui se fait avec des États qui sont en capacité d'aider la République centrafricaine. Le choix de la République centrafricaine comme siège, donc Bangui comme siège de la de BRICS en Afrique centrale, est tout simplement un honneur que nous avons accepté. Ce qui veut dire aussi, parce qu'on dit bien que l'Afrique est l'avenir de demain, c'est autant nous, en tant que pays africain, nous avons besoin de l'expérience de la, comment dire, de cette économie soutenue des pays du BRICS ou autres, mais autant nous savons que le BRICS, comme tout autre État, a également besoin des pays africains et notamment de la République centrafricaine. Vous savez que la République centrafricaine est un pays à forte potentialité qui détient un certain nombre de matières dont les économies du monde ont besoin. Et notre volonté de diversification, c'est justement de pouvoir élargir des rapports sains, des rapports respectueux et surtout des rapports gagnant-gagnant.
Merci beaucoup. Après la visite d'une délégation des BRICS à Bangui en avril dernier, le représentant des BRICS en Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, Awa Dombello, a annoncé que 7 projets clés ont été retenus pour le désenclavement de la République centrafricaine et l'amélioration de ses relations avec ses voisins et le reste du monde. Et parmi ces projets, même la création d'une nouvelle ville a été évoquée. Pouvez-vous nous en donner déjà quelques détails là-dessus ?
Écoutez, des détails, non, parce que c'est, comme vous l'avez dit, ça vient d'être annoncé et que les travaux sont en cours et les choses sont dans cette phase de vouloir justement prendre forme. Il faut nous laisser aussi le temps de travailler. Vous savez, il y a un proverbe qui dit c'est vos projets, si vous souhaitez qu'ils aboutissent et qu'ils deviennent concrets, il ne faut pas trop en parler. Donc, je me garderai de pouvoir rentrer dans un certain nombre de détails, mais retenons surtout qu'il y a cette volonté justement de consolider des efforts et d'apporter à la République, de répondre en tout cas aux besoins et aux attentes de la République centrafricaine en termes de développement, donc sur ces 7 projets. Et on sait que nos défis sont nombreux, mais commençons par ces 7 projets et nous allons pouvoir justement continuer avec d'autres. Allons-y pas à pas.
Merci beaucoup. On observe aujourd'hui également une forte montée d'intérêt de la part des pays occidentaux envers l'Afrique. Les présidents et les hauts fonctionnaires occidentaux enchaînent leurs visites sur le continent, rivalisant en quelque sens entre eux et allant parfois jusqu'à imposer leur vision du monde aux Africains. Comment évaluez-vous cette tendance et sur quels principes ces partenariats doivent-ils se baser ?
Comme je l'ai dit au départ, oui, on dit que l'avenir de l'Afrique est l'avenir de demain. Donc aujourd'hui, nous y sommes. Ce ne sont plus que des paroles de soi-disant experts internationaux sur l'Afrique. C'est une réalité parce que l'Afrique regorge plus de la moitié des besoins des économies du monde. Donc d'où cette abondance de visites. Et autres. Nous sommes très courtisés, mais nous avons aussi une histoire, et de cette histoire, nous avons tiré le son, c'est-à-dire que nous nous faisons courtiser, certes, mais nous savons ce que nous voulons, et nous voulons justement que dans ces actions vers nous, que les rapports et que les discussions soient totalement honnêtes, soient sincères, et que les engagements soient aussi qu'elles tiennent compte des besoins des pays africains et de la République centrafricaine en particulier en ce qui nous concerne. Nous avons aussi, vous savez, face à cette crise Ukraine-Russie, une volonté aussi de pouvoir créer, solliciter l'Afrique pour pouvoir prendre parti. Et je pense que l'Afrique a démontré qu'elle n'était plus dans cette démarche. Elle était dans une démarche où son positionnement à elle seule primait. Donc, c'est un meilleur positionnement de l'Afrique. D'ailleurs, dans le cadre des réformes du Conseil de sécurité, nous sommes dans cette demande de pouvoir voir l'Afrique être représentée valablement sur la scène internationale et puis être reconnue en ayant droit au même titre que les autres. Nous avons aujourd'hui en Afrique des États, la plupart des États qui sont en conflit se trouvent en Afrique. Les solutions doivent être trouvées en tenant compte de ce que dit l'Afrique. Donc, il faut qu'au Conseil de sécurité, que l'Afrique ait entièrement sa place avec un droit de veto véritable, parce que c'est tout aussi un continent qui, en termes de population, est bien dense, mais qui n'est pas forcément reconnu, ou qui est reconnu, mais c'est par procuration. Non, nous n'avons pas besoin de donner procuration à quelqu'un pour parler en notre nom. Nous avons surtout besoin qu'on nous entende, qu'on nous prenne au sérieux, qu'on nous prenne à part égale, que nous soyons dans des discussions à hauteur d'homme, avec un grand H, et qu'on nous courtise. C'est une chose. De toute façon, je pense que le monde est comme il est, mais il faut qu'on nous soyons courtisés dans un rapport égal à égal, dans lequel nous soyons vus comme des vrais partenaires et non comme des partenaires qui doivent faire un choix, ou en tout cas des personnes qui doivent faire un choix, vous devez être dans un clan ou un autre, non. Nous pouvons aussi l'Afrique être ce partenaire qui apporte une harmonie au monde, parce qu'aujourd'hui, vous voyez bien que ces grands discours pour la paix ne fonctionnent pas en Afrique, et que les décisions qui sont prises ne sont pas non plus uniformes. Je prends le cas de la République centrafricaine. Nous avons connu des agressions de rebelles, des mercenaires venant d'ailleurs. Les réactions au niveau de la communauté internationale, en tout cas au niveau du Conseil de sécurité, n'ont pas été les mêmes. Nous avons été mis sous embargo. Les forces régulières n'ont pas eu cette possibilité de pouvoir défendre correctement leur pays. Et nous sommes encore d'ailleurs sous embargo. Nous nous battons contre cet embargo injuste, avec notamment le soutien de la Fédération de la Russie qui a su écouter notre besoin. Du coup, oui, pour dans cette volonté de dire que l'Afrique doit être un partenaire, il faut aller jusqu'au bout. Il faut que ce soit un partenaire pour lequel nos décisions, nos résolutions soient uniformes, soient en harmonie. On ne peut pas dire que l'Afrique aujourd'hui, venir vers l'Afrique avec des propos de partenariat et dans les faits, de ne pas proposer des vrais partenariats où on crée les mêmes conditions qu'on crée pour l'ensemble d'autres États à l'Afrique. Donc les États africains doivent être vigilants par rapport à cela, et je suis assez fière, parce que dans ce conflit à aujourd'hui, l'Afrique a su, en tout cas un certain nombre de pays africains ont su tirer leçon de l'histoire. Rappelez-vous que l'histoire hier était effectivement basée sur des conflits en Europe auxquels l'Afrique a pris part en soutenant une cause qu'elle avait jugée juste, mais en retour, quand les conflits se sont créés et sont arrivés en Afrique, nous n'avons pas eu les mêmes réactions. En République centrafricaine, on nous demande même de pouvoir dialoguer, de discuter avec nos bourreaux, ce n'est pas demandé ailleurs. Donc vous voyez, c'est ces deux poids deux mesures qu'il faut corriger et qui doivent être entendus dans les discussions, dans toutes les visites. Nous voulons bien être courtisés, certes, mais pour être courtisés, il faut qu'on propose des choses qui sont concrètes et qui soient en corrélation avec nos attentes, nos besoins, nos perspectives, nos enjeux et nos défis.
Parmi les pays occidentaux qui cherchent à raviver leur présence et même leur influence sur le continent africain, figure notamment la France. Paris a par ailleurs récemment annoncé sa nouvelle stratégie militaire en Afrique. Comment pouvez-vous estimer cette stratégie et où en sont aujourd'hui les relations entre Paris et Bangui?
Sur cette nouvelle stratégie militaire, je serais mal placée pour pouvoir la commenter ou autre, parce que cela relève d'un droit souverain qui appartient à la République française, donc nous l'avons suivi. Après, tout simplement, ce que je pourrais dire, si je peux me permettre de faire un commentaire, c'est tout simplement je pense que il est question d'abord d'une politique africaine qui doit être revue pour tenir compte justement du fait que le monde a évolué et que l'Afrique aussi a évolué. Vous avez des générations nouvelles qui sont conscientes de leur sort dans les enjeux stratégiques. L'Afrique a toujours été laissée pour compte. L'Afrique a toujours été un petit peu l'enfant pauvre. C'est ça qu'il faut revoir dans les discussions. Et puis dans les relations, il faut d'abord peut-être privilégier une relation humaine, parce qu'on parle à des hommes. On se parle entre hommes, avec un grand H encore une fois. Et c'est de mettre une relation, un partenariat, une coopération sur une base uniquement de stratégie militaire, c'est aussi peut-être laisser le monde ancré dans des relations uniquement militaires, et donc ça qui veut dire de rapports de force de manière systématique, de conflits, de violences, parce que c'est ça derrière. nous devons aussi mettre en œuvre plutôt, privilégier davantage justement la diplomatie, avoir des relations où les gens se parlent, voilà, entretenir une relation avec l'Afrique uniquement sur une base de stratégie militaire, je ne pense pas que ce soit la meilleure des solutions. En tout cas, ça a toujours été celle-ci et les résultats escomptés, à mon sens, au vu des tensions qui existent aujourd'hui, c'est bien que ce n'est pas la solution. Nous sommes en tout cas dans nos rapports aujourd'hui, nous sommes constants, nous sommes disposés au dialogue. Nous sommes aussi constants dans le fait que nous sommes dans une volonté de diversification de nos relations et non de rejet. Donc ça, je pense qu'il faut que ce soit entendu. Il n'y a aucunement de position de la République africaine anti-française ou anti-quoi que ce soit. Il y a tout simplement un positionnement de la République centrafricaine pro-RCA. Nous sommes pro-République centrafricaine. Donc au même titre que d'autres États défendent les intérêts qui leur sont propres, ce qui est attendu d'ailleurs par leur peuple, eh bien, les autorités centrafricaines défendent également les intérêts du peuple centrafricain, de la République centrafricaine, et il faut que cela soit entendu aussi. Une fois que cela est accepté par tous, nous avons juste à nous asseoir à une table et puis discuter, comprendre comment nous pouvons faire en sorte de travailler ensemble, de mieux travailler ensemble pour l'intérêt commun de nos deux pays et surtout de nos deux populations.
Merci beaucoup. Revenant aux relations entre la République centrafricaine et les structures financières occidentales, Alfred Tangapoloko, qui a été en Russie récemment, le président du Conseil économique et social de la Centrafrique, a affirmé que votre pays avait été privé d'une partie de soutien budgétaire de la Banque mondiale en raison de ses liens d'amitié avec Moscou. Quels commentaires pourriez-vous faire à ce sujet ?
Déjà, je voudrais rappeler que la République africaine est un État indépendant, donc un État souverain, libre du choix de ses partenaires, et d'autant plus dans une dynamique qui est la sienne, comme je réitère cette volonté de diversification. Donc nous avons le libre choix de pouvoir choisir nos partenaires sans vouloir offenser qui que ce soit. D'autre part, je pense que dans les difficultés, dans les partenaires techniques et financiers que nous avons pu observer, nous voyons bien que en fait, le multilatéralisme doit être revu. Bilatéralisme est confondu justement aux intérêts bilatéraux de certains États. Nous ne pouvons pas nous en sortir et nous comprenons justement que le monde va mal aujourd'hui à cause de ça. Le multilatéralisme, c'est prendre en compte, mettre en harmonie justement les besoins de l'ensemble des États, notamment quand on parle de l'Organisation des Nations Unies, dont la République africaine est un État membre et dans lequel la République africaine voudrait aussi faire entendre sa voix, et toutes ces instances qui découlent de tout cela, donc le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et autres, il faudrait aussi que les intérêts des différents États soient équilibrés, soient en équité. C'est dommage que ces instances internationales, en tout cas ces organisations techniques financières, soient utilisées pour contraindre, intimider ou autre. Et c'est dommage parce que ce n'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est de venir en soutien. Et quand vous parlez de ces problématiques d'appui budgétaire, moi, j'irai plus loin. Je pense que c'est un système qui a fait 100 ans. Ce système d'appui budgétaire, surtout quand on voit un pays comme la France qui détient un certain nombre de potentialités qui, en l'occurrence, est en totale capacité de subvenir à ses besoins, ne serait-ce que par l'exploitation de ses propres ressources, il est inconcevable de dire à aujourd'hui qu'elle doit se limiter à des appuis budgétaires. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne va pas et que l'on ne comprend pas. D'où cette recherche de partenariat qui va être en capacité de venir aider la République africaine à faire la promotion, à valoriser ses propres ressources. Parce qu'il n'est pas digne pour un État de rester en perpétuel ou en permanence dans des soutiens, dans de l'aide, parce que ces appuis budgétaires reviennent à de l'aide. Et l'aide au développement, je pense, ça fait 100 ans. Il y a eu des études, d'ailleurs, de grands spécialistes d'Afrique qui ont bien démontré que l'aide au développement est en fait est assez illusoire et si farce parce que elle n'a pas aidé du tout à développer. Elle a plutôt aidé à contenir ces pays en voie de développement dans la sphère des pays en voie de développement. Donc, il faut s'émanciper de tout cela. Et il faut que justement que ces partenaires techniques et financiers soient là dans des programmes, des vrais programmes de développement et pas des programmes d'appui pour conserver dans un état état de précarité, de pauvreté, parce que la misère derrière entretient la violence, entretient les violations des droits humains, entretient la précarité, la paupérisation du peuple. Alors qu'en République africaine, nous avons besoin justement d'avoir les moyens de permettre de former nos élites, de former les cadres qui seront compétents de développer, de construire la République centrafricaine. Justement, parce que si la République centrafricaine atteint ce niveau de développement recherché pour répondre aux aspirations de sa population, elle peut demain devenir un partenaire de taille qui contribuera efficacement à la stabilité économique mondiale.
Vous avez déjà parlé, un petit peu tout de suite de la multipolarité. La Russie vient de fêter le jour de la victoire et dans son intervention, le président Poutine a également évoqué le monde multipolaire qui est selon lui plébiscité par toutes les nations et aujourd'hui et que la Russie veut contribuer à construire. Comment voyez-vous la place de votre pays et peut-être de tout le continent africain dans ce monde multipolaire qui émerge?
Comment je vois la place d'abord de l'Afrique? C'est justement, je l'ai dit, c'est l'Afrique aujourd'hui est en quête de revendique une meilleure position, une position qui est en relation avec sa démographie et ses capacités économiques et au fait qu'elle détient la plupart des ressources naturelles dont le monde a besoin dans ses États. Donc nous avons besoin que, en termes de positionnement, que l'Afrique soit reconnue comme un continent à part égale, dans lequel, dans l'ensemble des instances de grandes décisions comme celui de l'Organisation des Nations Unies et en l'occurrence du Conseil de sécurité qui est l'organe garant de la paix, il faut que l'Afrique ait toute sa place. L'Afrique doit prendre part aux grandes décisions de ce monde. L'Afrique doit prendre part surtout aux grandes décisions qui concernent l'Afrique. Aujourd'hui, au Conseil de sécurité, beaucoup de pays africains sont représentés, mais l'Afrique n'a pas ce poids de pouvoir faire entendre sa voix. Donc, il y a un déséquilibre quelque part. Donc, il y a surtout besoin de rééquilibrer les choses. Le positionnement de l'Afrique doit être vu par un meilleur respect de la souveraineté des États africains. Nous ne pouvons pas, en 2023, demander ou tenir rigueur à des États africains parce qu'ils ont pris telle ou telle position. Ça date d'un autre temps. Aujourd'hui, nous sommes en capacité de savoir ce qui est bien pour nous. Nous sommes en capacité de décider de ce qui est bien pour nous. Et puis de faire face aussi de manière très responsable aux conséquences de nos propres décisions. Donc nous ne pouvons pas être dans un monde aujourd'hui qui demande à ce que nous soyons juste des suivis, mais qui n'est pas reconnaître la souveraineté des États africains. Donc c'est un meilleur positionnement du continent africain pour un meilleur positionnement et un meilleur respect de la souveraineté des États africains qui sont sans préjugé aucun. Et c'est là, dans ce respect de la souveraineté, c'est de laisser aussi ce libre choix à chaque pays de se développer selon sa conception des choses.
Merci beaucoup, Madame la Ministre. Et toute dernière question, vous avez sans doute entendu parler de l'accord céréalier qui est censé assurer les exportations de céréales depuis l'Ukraine vers les pays dans le besoin. Cet accord arrive à échéance dans moins d'une semaine et la Russie insiste sur le dysfonctionnement de cette initiative. En réalité, selon Moscou, les céréales ukrainiennes n'atteignent pas les pays pauvres et les pays dans le besoin, contrairement à ce qui était annoncé et prévu initialement. Et alors les céréales ukrainiennes sont par contre livrées en Europe, alors que les céréales russes sont de facto sanctionnées. Selon vous, cet état de choses est-il juste? Et si on parle de votre pays et de l'Afrique en général, est-ce que vous avez besoin de céréales russes pour assurer et pour améliorer votre sécurité alimentaire?
Vous savez, la République africaine est une terre très fertile. Donc nous avons surtout besoin qu'on ait des programmes de développement qui nous permettent de produire sur notre propre terre des céréales et autres pour répondre aux besoins de sécurité alimentaire. Il est vraiment paradoxal de dire qu'on est en Afrique en insécurité alimentaire alors que l'Afrique détient en hectare des terres suffisamment arables pour répondre à ses propres besoins. Encore une fois, c'est un système qui veut conditionner l'Afrique en dépendance. Et c'est de ça dont nous devons sortir. Alors, on peut avoir des accords, effectivement, dans l'urgence, parce qu'on parle d'humanitaire et autres. Mais je pense que parler d'humanitaire pendant depuis des décennies, sans avoir des propositions, des solutions concrètes, et vouloir justement entretenir cette situation d'urgence humanitaire, parce que, effectivement, c'est aussi toute une affaire rentable, toutes ces organisations qui, au final, dans les faits, viennent pour faire de l'humanitaire, parlent beaucoup d'humanitaire, mais pratiquent peu l'humanitaire, parce que les dons qui sont donnés, les bailleurs financent beaucoup plus le fonctionnement de ces grandes organisations, et ça n'atteint pas. Donc ça ne m'étonne pas que justement les résultats de ces accords n'arrivent pas jusqu'au bout, parce que nous, en tout cas en région africaine, nous sommes totalement conscients du fait qu'on parle beaucoup d'humanitaire, mais dans les faits, les appuis, les aides, les contributions qui sont données pour ces soutiens humanitaires pour répondre à l'insécurité alimentaire grandissante n'arrivent pas au bout, n'atteignent pas en tout cas les bénéficiaires, ceux qu'on a vraiment besoin. Donc il y a besoin de penser autre chose. Ce que je ne comprends pas de ce monde, c'est qu'on parle à des milliers de kilomètres de distance, alors que répondre dans l'urgence serait beaucoup plus simple en permettant aux pays africains, notamment, je parle encore une fois de l'Afrique africaine, de pouvoir cultiver sur place. Quand on achemine, ça prend des mois et des mois, alors que si vous prenez vous permettez à chaque population de pouvoir avoir son petit hectare, ils mangeraient correctement. Donc je ne comprends pas ce monde dans lequel on veut nous contraindre avec des solutions déjà toutes pensées. Il nous faudrait justement pratiquer l'humanité. Pratiquer l'humanité, ça veut dire être beaucoup plus équitable les uns envers les autres et tenir compte de la réalité du monde. L'Afrique détient des terres fertiles. Donc, quand on se trouve face à une situation difficile comme ça, pourquoi ne pas les temps de résoudre les conflits, ne pas justement diversifier les sites, les lieux où nous produisons les céréales ou autres. En tout cas, l'Afrique est totalement disposée à cela si on veut bien lui permettre justement d'être cet avenir de demain, mais surtout d'être ce demain avec lequel les pays du monde viendront mettre en place justement un commerce équitable, des échanges commerciaux qui soient également encore une fois équitables et pour lesquels les résultats de cette exploitation des ressources naturelles du monde soient beaucoup plus répartis à travers les humains que nous sommes.
C'était Sylvie Baipo-Temon, ministre des Affaires étrangères de RCA au micro de Spoutnik Afrique. Elle a dressé les attentes de son pays en marge du prochain sommet Russie-Afrique et énoncé les priorités de son pays sur le plan diplomatique.
Suivez Spoutnik Afrique sur Maliba FM. Du lundi au vendredi à 19h, Spoutnik décryptera l'actualité africaine et international dans ses émissions Zone de Contact et Afrique en Marche. Politique, économie, défense, diplomatie. Des spécialistes de renom vous donneront une vision alternative à celle proposée par les médias mainstream. Du lundi au vendredi à 19h sur Maliba FM.
Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous écoutez Spoutnik Afrique depuis Bamako. Moi, Anthony Lefebvre, présentateur de l'émission Zone de Contact, je vous souhaite la bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Le Zimbabwe a lancé une monnaie numérique adossée sur l'or. Elle a pour objectif de stabiliser le système financier du pays, touché par un phénomène d'hyperinflation. Pour rappel, ce n'est pas la première fois que le Zimbabwe a mis en place ce type de mesure. En 2022, ce pays africain a introduit des pièces d'or libellées en once afin de proposer un instrument d'investissement indépendant et de freiner l'engouement pour le dollar américain, accusé d'affaiblir la devise zimbabwéenne. Les monnaies ont été baptisées Mossi Oa Tunia, dans la langue Makololo, c'est le nom des chutes Victoria, l'une des principales attractions touristiques du pays. En Afrique, les crypto-monnaies gagnent en popularité. Selon une étude de la compagnie singapourienne AAA, le continent noir abrite le plus grand nombre de possesseurs de monnaie numérique après l'Asie. Le pays où sa part est la plus importante est le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Kenya, l'Égypte et la Tanzanie. L'an dernier, la République centrafricaine a adopté le Bitcoin comme monnaie légale aux grandes dames du Fonds monétaire international. Le FMI s'est également montré sceptique à l'égard de l'initiative du Zimbabwe. Quels sont les avantages et les risques liés à l'utilisation des monnaies numériques? Au micro de Spoutnik Afrique, Yamb Ntimba, économiste, écrivain et philosophe camerounais, nous donne des éléments de réponse. Écoutons-le. Le Zimbabwe, un important producteur d'or, introduit une monnaie numérique adossée à l'or. Le lancement vise à stabiliser le système financier du pays ravagé par l'hyperinflation. Comment évaluez-vous cette mesure? Quelles opportunités et risques elle implique?
L'action du Zimbabwe est une action de correction qu'il faut saluer. Parce que ce pays-là est ravagé parce que vous avez appelé l'hyperinflation, effectivement. Mais que signifie finalement l'inflation? L'inflation, c'est présenté généralement par les économistes classiques des écoles européennes et américaines comme la hausse des prix. Mais ce n'est pas ça l'inflation. L'inflation, c'est la dépréciation de la monnaie qui n'a plus la capacité de, qui n'a plus, ne donne plus le même pouvoir d'achat à un instant T qu'à un instant T plus 1. En fait, ce pouvoir d'achat s'est déprécié. Donc, l'inflation, de manière précise, c'est la dépréciation de la monnaie qui résulte en hausse des prix. Donc, pendant longtemps, on a présenté l'inflation comme étant la hausse des prix. Non, c'est la conséquence de l'inflation. L'inflation, c'est la dépréciation de la monnaie. Donc, une monnaie qui se déprécie de façon systématique, en général, c'est parce que elle-même est une, n'est pas nécessairement lié ou stabilisé par quelque chose de naturel. Donc, ce que font les autorités zimbabwéennes en liant leur nouvelle monnaie à l'or est justement dans le but de bénéficier de tous les avantages de l'étalon or et de pouvoir stabiliser définitivement leur monnaie qui sera donc alignée sur le cours mondial de l'or. Cette mesure est tout simplement salutaire dans un pays qui est considéré traditionnellement comme le grenier de l'Afrique australe et où on voit des populations laborieuses, industrieuses, qui vaquent à leurs occupations avec détermination et avec espoir et un gouvernement qui cherche par tous les moyens à lui donner la capacité de ou les conditions de produire et de pouvoir satisfaire ses besoins et de développer son économie. Je crois que c'est une mesure salutaire et nous encourageons d'ailleurs la plupart des pays de l'Afrique et du monde à avoir celles qui ont leur monnaie, contrairement à la zone franc CFA qui est plombée par le colonialisme monétaire français, de lier leur monnaie à de l'or, à ces matières précieuses pour pouvoir stabiliser et surtout pour avoir une économie réelle, une économie où on voit des contreparties monétaires claires et précises qui permettent donc d'évaluer de manière objective et rigoureuse les valeurs ajoutées produites dans ces pays et surtout la valeur réelle des marchandises et le vrai pouvoir d'achat. Donc c'est une mesure salutaire. Les opportunités, c'est que ça va permettre, ça va booster la production de l'or au Zimbabwe, mais surtout ça va permettre au Zimbabwe d'avoir des échanges transparents, des échanges des échanges traçables de leurs produits, mais surtout de tout ce qui est transactions monétaires. Les opportunités, elles sont nombreuses également, elles restent vraiment nombreuses. Aujourd'hui, la première, c'est la stabilisation de la monnaie qui est aligné sur le cours mondial de l'once d'or. Et dans le même temps, cela permet de stabiliser rapidement l'économie, de mettre fin à l'inflation et de pouvoir relancer la production au Zimbabwe. Ça permet également à la Banque centrale zimbabwéenne, au gouvernement zimbabwéen, de sortir du cycle vicieux de la gestion de l'inflation vers un cycle vertueux de la production. Évidemment, il y a beaucoup de risques aussi. Les risques sont essentiellement, par exemple, si le cours de l'or plonge au niveau international, mais ça risque pas vraiment d'arriver de façon dramatique. L'autre risque, ça peut être que certains pays refusent de travailler avec le Zimbabwe sous le prétexte que le contexte monétaire du Zimbabwe est très différent du leur et que malheureusement, eux, ces pays-là, par la manière dont ils ont, par le fait de leur propre contexte monétaire, ne soient pas capables de s'arrimer à cette transparence, à cette stabilité monétaire zimbabwéenne. Mais cette mesure est salutaire et je pense qu'il faut soutenir le Zimbabwe dans ses efforts et surtout s'en inspirer pour pouvoir, si vous voulez, sortir de la vision et de l'organisation monétaire imposée par les Occidentaux au monde pour une nouvelle organisation qu'on voit très bien que les BRICS aujourd'hui, par exemple, intègrent, à savoir adosser les monnaies sur l'or et sur des matières précieuses.
En cas de succès de cette initiative zimbabwéenne, une telle monnaie pourrait-elle être utilisée par d'autres pays africains, par exemple pour des échanges internationaux?
Et il est clair que beaucoup de pays observent ce qui se passe au Zimbabwe avec intérêt et espère que ce sera un succès. Parce qu'à partir du moment où c'est un succès, on revient à un monde un peu plus juste, un peu plus objectif, un monde un peu plus humain, celui d'avant 1971 où l'étalon or était utilisé, et un monde aussi qui va, même si on part de l'or physique vers l'or numérique, le Bitcoin, un monde qui est un monde décentralisé, un monde multipolaire. Ce ne sera plus dominé par une seule monnaie parce que l'or du monde ne peut pas être contrôlé par quelqu'un, mais une seule monnaie comme le dollar l'a été pendant longtemps, évidemment, c'est la monnaie d'un seul pays. Donc, le succès de l'expérience zimbabwéenne sera le succès, si vous voulez, c'est carrément le test de la nouvelle donne monétaire du 21e siècle. Nous allons faire pas vraiment un retour à l'étalon or, mais nous allons restaurer les capacités, la présence de l'or dans le système monétaire pour lui donner la stabilité dont il a besoin. Et le système monétaire et financier international vise justement cette stabilité qui va rémunérer de façon juste le travail fourni par les employés, les ouvriers, mais également qui va rémunérer de façon juste l'exportation des matières premières ou même des produits manufacturés par tous les pays du monde. Donc, aujourd'hui, cette expérience est scrutée, est suivie, est monitorée par pratiquement tous les pays du monde, mais particulièrement par les Africains, qui ont de très grandes réserves d'or, mais surtout monitoré par beaucoup de pays d'Afrique et d'Asie et d'Amérique du Sud, parce que ces pays-là s'impliquent de plus en plus sur le Bitcoin, qui est de l'or numérique. Aujourd'hui, c'est reconnu que c'est de l'or numérique. Donc, c'est une expérience extrêmement intéressante qui va modifier substantiellement la qualité du commerce international, parce que finalement, on va revenir à des standards qui permettent d'être sûr que quand vous exportez vos matières premières ou vos produits industriels, en fait, vous recevez une réelle contrepartie, mais pas du papier que tout le monde peut imprimer dans n'importe quel petit coin de la planète. Et comme les gens le faisaient avec le dollar qui est un simple papier. Quand le gouvernement américain vous donne du dollar, en fait, c'est du papier simple. Il n'y a pas d'autre contrepartie derrière que la confiance que vous avez dans le gouvernement américain. Or, la confiance, ce n'est pas un actif économique. Alors que là, quand on a derrière un moyen de paiement la garantie de l'or, c'est une vraie richesse qui est mise en contrepartie et qui permet donc d'assurer celui qui achète, celui qui vend, que c'est un échange juste, équitable, et de rassurer encore celui qui vend que ce qu'il va recevoir est quelque chose qui correspond effectivement à la valeur que lui-même il met sur le marché. Et c'est une nouvelle configuration du monde et la monnaie des BRICS vise justement à instaurer ce type d'environnement des affaires au niveau international.
Le Fonds monétaire international a mis en garde le Zimbabwe contre l'adoption d'une monnaie numérique adossée à l'or, estimant que la priorité devrait être donnée à la libéralisation du marché d'échange. Pourquoi une telle réaction du FMI ?
Le FMI est une institution manipulée par les Américains. Et les Américains sont contre le fait qu'on puisse adosser les nouvelles monnaies numériques à l'or, ou n'importe quelle monnaie d'ailleurs, à de la matière première. Souvenez-vous de ce qui s'est passé en Libye. Le projet du président Kadhafi à l'époque, c'était de créer c'était la création d'une monnaie africaine adossée à l'or. Et le Cameroun devait abriter le siège de du Fonds monétaire africain, le Nigeria de la Banque centrale africaine. Et on sait ce que les Américains lui ont fait, parce que toute monnaie qui est adossée à l'or, en fait, chasse automatiquement le dollar de son espace économique. Et dans le FMI, qui est un instrument aux mains des Occidentaux, sera le gendarme qui viendra rappeler tout le temps qu'il ne faut pas procéder de cette façon-là. Donc le FMI est en mission commandée au nom, au profit, au bénéfice des États-Unis, pour que le dollar américain ne soit pas chassé du Zimbabwe. Ce d'autant plus que pendant un moment, au plus fort de l'inflation, les Zimbabwéens, à un moment donné, se sont mis à utiliser carrément le dollar comme monnaie officielle dans leur pays. Donc aujourd'hui, ces jérémiades du FMI, écoutez, on le comprend, mais je crois que le gouvernement du Zimbabwe n'y fait pas vraiment attention, parce que ce qui est en jeu, c'est la vie de millions de Zimbabwéens qui souffrent depuis plusieurs décennies de la volatilité de leur monnaie et de l'hyperinflation qui gangrène le pays et détruit la valeur ajoutée, détruit les commerces, détruit les industries, détruit l'agriculture, détruit toutes les capacités d'investissement public et privé. Donc, cette attitude du FMI, croyez-moi, ne surprend pas, parce que l'objectif du FMI n'est pas d'accompagner les pays, surtout ceux d'Afrique, dans leur développement, n'est pas de les aider à se développer, n'est pas de les aider à construire une industrie qui puisse satisfaire les besoins locaux. Pire, n'est pas là pour aider des pays qui se battent pour construire leur capacité de sécurité. Le FMI est là pour diluer toutes les capacités d'investissement et toutes les capacités de développement de nos pays africains. Et donc, toute solution qui va dans le sens de stabiliser notre économie et de propulser le pays dans les hautes sphères du développement, eh bien le FMI va venir s'interposer pour que cela ne se passe pas. Parce que le développement des pays africains signifiera chasser le dollar de l'espace économique africain, qui compte aujourd'hui près de 2 milliards d'habitants, qui représente réellement, si vous regardez les exportations de matières premières en 2021, l'Afrique aurait dû percevoir 33 000 milliards de dollars, l'équivalent de 33 000 milliards de dollars. Et donc, réellement, c'est la première économie du monde. Mais tout le monde, on fragmente l'Afrique en 54 petits États, 55 en réalité, puisqu'on a encore le colonialisme marocain qui empêche le Sahraoui d'être indépendant. Donc 55 pays africains, et du coup, l'impression que le reste du monde a, c'est que c'est un espace pauvre. Mais si l'Afrique se réunissait en un seul État, un peu comme la Fédération de la Russie, eh bien, vous vous rendrez bien compte que c'est un État extrêmement puissant, mais qui a l'avantage d'œuvrer pour la paix et la justice dans le monde. Du coup, le FMI, qui est le gendarme financier de l'Occident, n'a pas envie que le monde s'organise sous le mode de la paix, de la prospérité partagée, et donc va s'interposer, va tout faire pour empêcher les pays qui stabilisent leur monnaie, qui se donnent les conditions de décollage économique et surtout les capacités d'investissement dont on a besoin pour ce décollage économique.
Des monnaies numériques décentralisées sont assez populaires en Afrique. Parmi leurs avantages, les experts mettent en avant la vitesse des transactions, qui ne demandent parfois qu'un portable, et l'absence de commissions d'intermédiaires à cause de leur décentralisation. Quelles sont les perspectives des monnaies numériques dans les pays africains ? Avec le temps et le développement des technologies financières décentralisées, sont-elles capables de concourir avec des monnaies centralisées comme le dollar ou l'euro ?
L'Afrique aujourd'hui a besoin d'éviter pour son avenir le paradigme monétaire qui a été consacré pendant tout le XXe siècle, à savoir le paradigme de la monnaie centralisée. Nous devons aujourd'hui, en Afrique, aller vers un système totalement décentralisé qui nous permet d'éviter l'hégémonie d'une autorité ou d'un seul pays sur le continent. Si nous avons un modèle monétaire de type centralisé classique, là vous parlez de l'euro et du dollar par exemple, tout naturellement, soit il y aura un pays africain qui va dominer sur tous les autres, soit nous allons continuer à subir la domination occidentale de manière générale, puisque économiquement ce sont eux qui sont les plus proches et que l'essentiel des monnaies africaines est encore arrimé à ces encore des liens particuliers avec les monnaies occidentales. Et n'oubliez pas qu'il y a 15 pays en Afrique qui n'ont pas de monnaie, qui payent l'impôt colonial à la France, alors que ces pays-là ont libéré la France de l'Allemagne nazie, ont contribué à la victoire lors de la Deuxième Guerre mondiale, et que la France oublie souvent que c'est grâce à la Russie qu'elle a été conviée à la table des vainqueurs alors qu'elle n'y avait pas droit. Souvenez-vous de ce qui s'est passé entre l'échange entre le maréchal Joukov et le maréchal Kétain. C'est grâce à Joukov que la France a trouvé une place, parce que c'est lui qui a imposé la France. Donc, il se trouve que ces questions monétaires, vous posez là une question extrêmement importante. Les monnaies numériques sont populaires, mais c'est parce que les jeunes ne veulent plus de ce paradigme ancien des monnaies, du paradigme monétaire ancien dominé par le dollar et l'euro sur leur continent. Et ils regardent tous les avantages du Bitcoin et ils se rendent compte que, en fait, le Bitcoin a des avantages qui leur permettent d'échapper à l'hégémonie et à la tyrannie du dollar et de l'euro. C'est pour cette raison que beaucoup d'Africains, de jeunes Africains s'orientent vers ces monnaies-là. Mais il faut simplement qu'ils soient prudents, parce que il n'y a pas deux monnaies numériques. La monnaie numérique, l'unique qui existe, c'est le Bitcoin. Le reste, ce sont des alternative coins. Ce ne sont pas vraiment des monnaies. On peut éventuellement les utiliser comme telles si on le veut, mais la seule vraie monnaie, c'est vraiment le Bitcoin. Parce que en matière de décentralisation, c'est la seule qui est vraiment décentralisée, qui n'appartient à personne, qui est sur des nodes complètement répartis à travers le monde, et personne ne peut arrêter les transactions du Bitcoin. Mais toutes les autres alternative coins appartiennent à des entreprises, et les monnaies numériques de banque centrale appartiennent à des banques centrales, donc ça reste simplement une numérisation du système traditionnel. Donc tout le reste, ce ne sont pas des monnaies numériques. La seule monnaie numérique qui existe, c'est le Bitcoin. Et pour que vous ayez le statut de monnaie numérique, la monnaie ne doit appartenir à personne. La monnaie ne doit être la propriété de personne. Toutes les autres sont les propriétés des entreprises ou des banques centrales. Donc ce ne sont pas des monnaies numériques décentralisées, ce sont encore des monnaies contrôlées par une autorité centrale, par un tiers. Donc aujourd'hui, ces monnaies-là représentent pour les Africains, le Bitcoin représente pour les Africains une porte de sortie du système traditionnel monétaire, du système monétaire traditionnel dominé par l'Occident. Et voilà la raison pour laquelle il faudrait effectivement que derrière l'aspect monétaire, que l'outil technologique, l'environnement technologique du Bitcoin soit maîtrisé par les Africains et qui leur permette demain de pouvoir s'émanciper de la dépendance au dollar et à l'euro. Mais la monnaie des BRICS, par exemple, qui est en création, est déjà un premier pas. C'est une monnaie qui est totalement décentralisée, qui n'est pas la propriété d'un État, mais qui appartient à tout le groupe. Ça, c'est une approche extrêmement innovante. C'est une approche très, très intéressante, qui va permettre de maintenir au cœur même du système monétaire le système d'un monde multipolaire, qui va permettre de maintenir au cœur même du système monétaire l'idée de prospérité partagée, l'idée de respect mutuel de chaque État, l'idée que il y a dans le monde des États souverains qui sont des amis, qui partagent, qui sont des partenaires, et il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Ils se regardent d'égal à égal, ils se vouent un respect mutuel, et ils ont compris que c'est dans le partage qu'ils peuvent assurer la prospérité et surtout la dignité et la sécurité de leur peuple mutuel.
C'était Yamb Ntimba pour Spoutnik Afrique. À notre micro, cet économiste, écrivain et philosophe du Cameroun a réagi au lancement d'une crypto-monnaie adossée à l'or au Zimbabwe et fustigé le FMI qui fait office, selon lui, de gendarme financier de l'Occident. Mesdames, messieurs, Spoutnik Afrique rend désormais l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, je serai très ravi de vous retrouver très prochainement aux commandes d'une nouvelle émission. En attendant, je vous invite à consulter notre site internet pour suivre l'actualité africaine et internationale. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.
Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.